Que vous le vouliez ou non, nous sommes arrivés déjà au milieu de l'année 2008. Ou pour dire les choses autrement, nous sommes aussi loin de Noël passé que du Noël à venir. L'année 2008 est déjà à son milieu. Et l'année 2008 est une année qui marque des anniversaires de différentes natures. Des anniversaires qui terminent par 8. Et j'aimerais ce matin en relever quelques-uns qui nous permettent de faire une sorte de rétrospective sur le passé. Vous remarquez d'ailleurs que souvent, les événements de l'histoire, les événements marquants de l'histoire, les événements qui sont restés dans la mémoire, ne sont pas des événements dont la Bible parle. Et inversement, les événements importants dans le plan du salut dont la Bible parle sont oubliés de l'histoire ou s'y trouvent très discrètement marqués. Ils ne sont en tout cas pas ceux dont tout le monde se souvient. Comme si Dieu nous rappelait « Mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. » Dieu regarde le temps, Dieu regarde le monde, Dieu regarde nos vies d'une manière différente que nous les regardons nous-mêmes. Et Dieu leur donne différentes valeurs à ces événements qui ponctuent le temps et qui ponctuent nos expériences personnelles. 2008, 1968, 40 ans. Il y a 40 ans en arrière, le monde occidental était remué par une tornade de liberté. Un vent particulier avait soufflé sur l'Occident, avait provoqué des révolutions tranquilles dans certains endroits et moins tranquilles dans d'autres. Vous vous souvenez qu'à cette époque-là, il y avait une agitation un peu générale et qui a provoqué curieusement une sorte de fascination dans l'esprit de certaines personnes. Je pense par exemple à cette jeune femme qui écrivait dans le Time Magazine en 1988. Elle disait ceci, « Je suis née en 1970, mais je donnerais 20 années de ma vie pour être adolescente en 1968 si je le pouvais. J'envie mes parents quand je les entends parler des Kennedy, des Beatles, de Martin Luther King, de Bob Dylan et des autres. » Une sorte de fascination sur cette époque chargée de figures très marquées, de gens au caractère bien campé, et une époque remuée par un vent nouveau de modernisme, de liberté qui soufflait à ce moment-là. Elle a coûté cher dans bien des endroits, je pense à Paris en particulier, où les turbulences étaient énormes, la révolte des étudiants avait mis une pagaille totale dans la ville. On construisait des barricades dans la rue, on brûlait les voitures, on arrachait les pavés du vieux Paris pour les jeter sur les policiers, on brûlait les magasins. Et c'est ainsi que pendant des mois, la ville de Paris et la France a été remuée par une révolution que l'on voulait être la suite de la Révolution française. Les esprits les plus brillants de ce moment-là poussaient des idées modernes, des idées athées, des idées révolutionnaires. On voulait refaire le monde. Mai 1968. Et c'est toute cette révolution, comme on l'appelait, qui a produit le fameux général de Gaulle à démissionner aussi en 68. Il était peut-être l'une des dernières images majestueuses de ce qu'avait été la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. 1968, il démissionne. En 1968, le 4 avril, Martin Luther King sera assassiné. Ce pasteur baptiste noir américain s'était fait connaître parce qu'il était militant dans la défense de l'égalité sociale, des revendications pour les droits des Noirs aux États-Unis. Et en 1968, en avril, il est assassiné. Évidemment, tout cela a relancé les tensions ethniques et sociales aux États-Unis avec beaucoup de force. Le 5 juin 1968, c'est Robert Kennedy qui est assassiné. Il est évident qu'il allait être élu comme président des États-Unis. Et il est assassiné quelques jours avant le scrutin. Il aurait été le deuxième président des États-Unis, le deuxième président catholique, après son frère assassiné 5 ans plus tôt. Cet événement a montré que Ce pays qui se présentait comme l'exemple de la grande démocratie mondiale était en fait gouverné par des mouvements souterrains beaucoup plus discrets, mais beaucoup plus puissants que la volonté du peuple par le vote. Le terrorisme déjà gouvernait ce pays. Il l'a manifesté à ce moment-là. 1968, le 8 septembre, la France fait exploser sa deuxième bombe à hydrogène dans le Pacifique et fait disparaître par cela une île du Pacifique entière. Cette deuxième bombe à hydrogène est infiniment plus puissante que la précédente. Et cette explosion ne passe évidemment pas inaperçue dans ce monde déjà plein de tensions de toutes sortes, où la guerre froide était tout juste froide, peut-être déjà tiède à ce moment-là. 1968, le 31 octobre, le président Johnson annonce l'arrêt des hostilités au Vietnam. Une guerre qui semblait être la réplique de la guerre de 100 ans. Une guerre interminable, une guerre d'usure, dans laquelle 200 000 Vietnamiens du Sud ont laissé leur vie et 47 000 soldats américains. 1968, le 25 décembre, Apollo 8 fait pour la première fois le tour complet de la Lune et prépare l'atterrissage sur la Lune quelques mois plus tard. 7 mois plus tard, le premier homme marchera sur la Lune l'année suivante. 1968, il y a 40 ans. Une période particulière, une période où les idéologies, la politique, les modes, tout est remué. Et l'on va faire finalement l'inverse de ce que l'on avait reconnu comme étant acceptable. On va retrouver un esprit de revendication, un esprit de contestation qui nous fait faire l'inverse de ce que tout le monde fait. On va parler de la mort de Dieu. Dieu n'existe plus. Et puis, dans la mode, c'est la même chose. Les hommes vont voir leurs cheveux s'allonger tout aussi vite que les jupes des dames vont rétrécir. On va faire tout le contraire de ce qu'on avait l'habitude de faire. 1968, c'est le temps de la liberté. C'est le temps, semble-t-il, où on refait le monde et on est reparti dans une ère nouvelle. Mais il y a d'autres anniversaires aussi qui finissent par 8 et qui sont intéressants à relever parce qu'ils ont marqué l'histoire. 2008, 1948, 60 ans. C'est cette année-là qu'a été présentée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Une déclaration importante où certains droits ont été expliqués clairement et reconnus officiellement. Et c'est important. Cependant, cette Déclaration des droits de l'homme marque un recul par rapport aux valeurs bibliques, sans qu'on s'en rende compte. En réalité, quand on lit les évangiles, le Christ n'est pas là à faire la revendication des droits de l'homme, mais des devoirs de l'homme. C'est ainsi que l'Évangile le présente. Et le Christ a bien montré qu'en réalité, dans l'accomplissement de nos devoirs les uns envers les autres, se trouve la réalisation de nos droits aux uns et aux autres. Ainsi, un progrès dans un sens, un recul dans un autre par rapport aux valeurs de la parole de Dieu. 2008, 1948 aussi, 60 ans, un autre anniversaire, la naissance ou la renaissance, si l'on peut dire, de l'État d'Israël. Depuis presque 2000 ans, ce peuple n'avait plus de territoire. Et à cause de ce que ce peuple a subi comme atrocité pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Société des Nations a donné à ce peuple de nouveau une terre. Et c'est en 1948 que l'État d'Israël est né de nouveau, né d'une volonté de reconstruire. Certains ont vu dans cet événement une page prophétique qui s'accomplissait. Certains ont vu une nouvelle époque pour ce peuple-là. Cependant, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir ce que Jésus a dit. « Mon royaume n'est pas de ce monde. » On pourrait multiplier les anniversaires qui terminent par 8. Il y en a là quelques-uns et il se trouve que dans les années passées, 40, 60 ans, plusieurs faits marquants ont été notés dans l'histoire. Cependant, ces faits marquants qui restent dans la mémoire populaire ne sont pas nécessairement les faits qui sont retenus par la prophétie biblique. Ce ne sont pas nécessairement ces événements-là qui jouent un rôle important dans le grand panorama du plan du salut tel qu'il est révélé dans les Écritures. Et dans ce sens, j'aimerais lire avec vous ce passage qui se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens et au chapitre 2. Nous n'irons dès le verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Des choses qui sont restées cachées au cœur de l'homme, parce qu'il n'a pas regardé avec le regard de Dieu. Et ainsi, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui regarde parfois avec nostalgie les années 60 et regarde avec inquiétude les années à venir. Je repense à cette parole que Ellen White a prononcée en 1893 et qui comporte un encouragement énorme. Nous n'avons rien à craindre pour le futur, à moins que nous oublions la manière avec laquelle le Seigneur nous a conduits dans le passé. Si le passé doit effectivement servir à quelque chose, à part la nostalgie que certains pourraient en avoir, c'est de souligner à quel point Dieu a conduit dans le passé. Et s'il a conduit de cette manière si précise, avec tant d'amour dans le passé, nous conduira-t-il dans l'avenir avec moins de précision, moins d'amour ? Sans aucun doute pas. Non, le Seigneur ne nous conduira pas dans l'avenir moins qu'il l'a fait dans le passé, d'autant plus que l'avenir sera plus complexe, probablement, que l'a été le passé. Ainsi, il y a d'autres anniversaires qui terminent par 8 et qu'il est important de souligner parce qu'ils ont une part importante dans la prophétie. Certains d'entre eux ont presque été oubliés de l'histoire que l'on raconte aujourd'hui. Ces événements n'ont pas été oubliés de l'histoire biblique. 2008-1798, 210 ans. Que s'est-il passé il y a 210 ans? Eh bien, vous vous souvenez, il est un prophète du nom de Daniel qui vivait 500 ans avant Jésus. Daniel était déporté à Babylone et pendant les jours de sa déportation, Dieu lui a parlé et lui a donné des visions dans lesquelles il lui indiquait quelle serait la fin des temps. Et dans le chapitre 7 en particulier de ce livre, se trouve le rapport de cette vision que Daniel a eue, où il a vu 4 animaux particuliers. Le dernier de ces animaux était particulièrement impressionnant. Il représente l'Empire romain. Sur sa tête, des cornes d'autres puissances avaient poussé, indiquant par là le développement de l'Europe occidentale. Et puis une corne particulière avait trouvé sa place, une puissance particulière, disait-il, qui parlait avec arrogance et qui se manifeste dans le récit de cette vision comme une puissance à la fois politique et religieuse. Cette puissance, à la fois politique et religieuse, est présentée dans ce chapitre 7 de Daniel et j'aimerais lire avec vous à partir du verset 25 ce qu'il est dit à son propos. Daniel, chapitre 7, verset 25, dit ceci. En parlant de cette corne, de cette puissance, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement. Une période curieuse qui est expliqué entre autres par l'Apocalypse et que nous savons être une période de 1260 années qui commence en 538, au moment où l'évêque de Rome reçoit un pouvoir politique en plus de son pouvoir religieux et une armée aussi qui va lui permettre d'imposer ses idées religieuses, une puissance qui va exercer sa force pour imposer ses vues religieuses pendant 1260 ans, jusqu'en 1798 justement, année où Napoléon va envoyer son général Berthier pour faire le pape prisonnier, pour le faire taire et diminuer et détruire son autorité. À propos de cet événement de 1798, le professeur James Hennessy de l'université jésuite Fordham écrivait ceci. Cet événement a secoué l'Église catholique jusque dans ses fondements. C'est un anniversaire important, il y a 210 ans. La parole de Dieu en parlait. Cet événement est en tout petit caractère dans l'histoire. Il est en grosses lettres dans le programme de Dieu. Un autre anniversaire, 2008-1848, il y a 160 ans. 1848. Les croyants qui s'étaient tout juste remis de la fameuse déception de 1844 avaient finalement reconnu que, bien entendu, ce n'est pas Dieu qui s'était trompé, c'est eux qui s'étaient trompés dans leur compréhension des Écritures. Et ils s'étaient remis au travail. Et en 1848 a commencé une série de rencontres, d'études de la parole de Dieu. Une série qui s'est étendue de 1848 à 1850 et qu'on appelle les conférences sur le sabbat. Ces gens, finalement, motivés pour connaître la volonté de Dieu pour la fin des temps, se sont rendus compte qu'effectivement, ils attendaient le retour de Jésus en 1844, mais ils n'étaient pas prêts pour le retour de Jésus. Tant ils étaient dans l'ignorance d'un grand nombre de vérités bibliques essentielles à connaître pour être prêts à la fin des temps. L'une d'entre elles, en particulier, était l'enseignement biblique concernant le sabbat, l'un des 10 commandements. Et c'est là, dans ces conférences sur le sabbat, qui ont commencé en 1848, qu'ils ont redécouvert les fondements bibliques de cet enseignement important, le jour du sabbat. Et puis, en étudiant l'un, ils ont étudié l'autre et sont arrivés à comprendre qu'il y avait encore un grand nombre d'enseignements bibliques dont ils étaient ignorants. Des enseignements bibliques qui sont en vérité inclus dans l'évangile éternel, dans la vérité présente pour aujourd'hui, comme le présentent les apôtres. Ces conférences bibliques, au nombre de 22 entre 1848 et 1850, ont rassemblé les plus calés de ces étudiants de la Bible. Et c'est eux qui ont étudié les Saintes Écritures pour remettre à jour les grandes vérités bibliques nécessaires à la fin des temps. Ils avaient comme outil leur Bible et une concordance. C'est tout ce qu'ils avaient pour travailler. Ils voulaient véritablement être sous l'influence de la parole de Dieu et de personne d'autre. Lorsqu'ils étaient arrêtés par l'incertitude, par le doute, par les questions, ils n'hésitaient pas à passer des nuits entières dans la prière. Ils passaient des journées dans le jeûne à rechercher, à fouiller les Écritures pour être sûrs que ce qu'ils avaient trouvé était l'enseignement de la parole de Dieu. C'est vrai que cette date n'est pas marquée dans l'histoire pour ce fait-là, mais il est extrêmement important parce que c'est un moment, un jalon dans l'histoire où des enseignements oubliés des Écritures ont été mis à jour et ont permis à des croyants d'adhérer à cet enseignement de la parole de Dieu et de se préparer au retour de Jésus. Un autre anniversaire, 2008-1858. Hélène et James White étaient en voyage. Ils avaient été à l'enterrement d'un membre de l'Église. Et de retour, Hélène White a eu une vision, la plus longue des 2000 visions qu'elle a eues pendant toute sa vie. Pendant 2 heures, elle a été en vision. Et suite à cette vision, pendant le voyage, elle a raconté à James, son mari, ce que l'ange lui avait présenté sur la grande tragédie dans le conflit entre Christ et Satan. Ce même soir, alors qu'ils étaient en voyage, elle a été frappée de paralysie et était proche de mourir. Elle a continué son voyage, transportée, portée. On l'a amenée dans son lit, une fois arrivée à la maison, à Battle Creek. Et elle explique que pour pouvoir écrire ce qu'elle avait vu et entendu en vision, il lui fallait un effort surhumain. Il lui fallait une journée pour écrire une page. Et après avoir écrit une page, il lui fallait 3 jours de repos pour récupérer, tant elle avait été frappée dans cette maladie. Peu à peu, sa condition s'est améliorée et il lui a été montré par la suite qu'en réalité, le diable voulait la faire mourir pour qu'elle n'écrive pas ce que le Seigneur lui avait montré. C'était en 1858, le 14 mars. C'était la vision qui a servi de base à ce livre que nous connaissons aujourd'hui en français sous le nom de « Tragédie des siècles ». Et je suis touché en pensant que le diable a tout fait pour que ce livre ne soit pas écrit. Il fait encore tout aujourd'hui pour que ce livre ne soit pas lu. Parce qu'il contient précisément la stratégie finale de l'ennemi à la fin des temps pour tromper le monde. Or, lorsqu'une armée connaît la stratégie de l'ennemi, elle sait qu'elle sera vainqueur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a fait connaître par sa parole, par ses serviteurs, quelle sera la stratégie de l'ennemi à la fin des temps. Nous l'avons entre les mains, le Seigneur nous fait la grâce de le connaître et de préserver ceux qui veulent le transmettre. 1858. Un autre anniversaire encore, 2008-1898, 110 ans. Que s'est-il passé en 1898 que l'histoire n'a pas remarqué? 1898, c'est l'année de la première publication du livre que nous connaissons en français sous le titre « Jésus-Christ ». Un livre extraordinaire qui est publié dans un temps particulier, un temps où le rationalisme, un temps où le scepticisme s'était implanté de partout. Dans ce livre, l'auteur rassemble les 4 évangiles et des 4 récits de la parole de Dieu en fait un seul, montrant véritablement qui est Jésus à une époque où le monde chrétien même n'en était plus très sûr. Dans ce livre, nous est montré que Jésus est le Sauveur. Et c'est ainsi qu'il est présenté dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, vous vous souvenez comment l'ange va présenter la naissance de cet enfant à Joseph. Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 21, dit ceci. En parlant de Marie, il est dit, « Elle enfantera un fils ». Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus le Sauveur. Quelques lignes plus loin, il est présenté comme Emmanuel, Dieu avec nous, donnant ainsi à ce Sauveur toutes ses lettres de créance. Jésus, c'est aussi le Seigneur. Et Jésus s'est étonné de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Regardez par exemple ce qu'il est dit dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 46, il est écrit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Jésus interpelle les gens de son temps, et il interpellerait de la même manière les gens d'aujourd'hui, en disant, « Mais ça ne suffit pas de m'appeler Seigneur, Seigneur, faites donc ce que je vous demande de faire. » Jésus-Christ est-il notre Sauveur ? Est-il notre Seigneur? Et l'Apocalypse, finalement, le présente encore sous un autre titre. Regardez dans Apocalypse au chapitre 19. Le verset 11 dit ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle est véritable et il juge et combat avec justice. Un peu plus loin, au verset 13, « Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Et au verset 16, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Aujourd'hui se pose encore cette question. Et je me demande, ce Jésus est-il véritablement mon Sauveur, mon Seigneur et mon Roi? Je ne peux pas résister à la tentation de vous lire les derniers paragraphes de ce livre, Jésus-Christ. Écoutez ceci. Il ne leur reprocha pas leurs fautes et leurs échecs. Les dernières paroles qu'ils entendirent des lèvres du Seigneur furent empreintes de la plus grande tendresse. Les mains étendues comme pour les bénir et leur donner l'assurance de sa sollicitude protectrice, il s'éloigna d'eux lentement, attiré vers le ciel par une force supérieure à toute attraction terrestre. Comme il allait disparaître, les disciples attristés tendaient leurs regards pour apercevoir une dernière fois le Seigneur. Une nuée glorieuse le déroba à leur vue, et tandis qu'un chariot d'anges enveloppé dans la nue l'accueillait, ils entendaient une dernière fois ces paroles « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'amour a vaincu. Ce qui était perdu est retrouvé. Les harpes angéliques accompagnent des chants de triomphe. Le ciel, débordant de joie et de reconnaissance, retentit de radieux accents à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Le spectacle de cette joie céleste nous renvoie à nous qui sommes sur la terre l'écho de ces admirables paroles du Christ. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » La famille du ciel et celle de la terre n'en font plus qu'une. C'est pour nous que le Seigneur est monté au ciel et c'est pour nous qu'il vit. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est à ce moment-là que paraissait pour la première fois ce livre extraordinaire, où le Christ est dépeint tel qu'il est dans les Écritures. Aujourd'hui, je suis frappé par ce que Daniel a écrit à la fin de son livre. Il a rapporté ce qu'il a entendu. Et je suis frappé de voir à quel point ces paroles sont vraies. J'aimerais les lire avec vous dans le livre de Daniel, dans le dernier chapitre de ce livre, chapitre 12. Nous lirons dès le verset 9. Il est écrit ceci. « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal. » Et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Je vois cette parole réalisée dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Et je me pose la question, comprenons-nous? Je repense à cette parole de Jésus qui s'adressait à son Père et qui dit « Je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Sommes-nous ces enfants de Dieu qui comprennent, qui savent dans quel temps ils vivent, qui ont noté au travers du temps les jalons placés par Dieu, non pas par les hommes, non pas par l'histoire de ce monde, mais les jalons placés par la prophétie biblique? Les connaissons-nous? Les avons-nous compris? Le Seigneur a révélé par ses jalons le programme de grâce et de salut qu'il veut étendre à tous les hommes, de sorte qu'au jour où Jésus reviendra, il soit prêt à le recevoir. Ainsi, si nous voulons véritablement que Jésus soit notre Seigneur et notre Sauveur, lorsqu'il reviendra, il faut qu'il le soit déjà pour nous, aujourd'hui.